Une étude publiée ce matin par l'ONG Oxfam et l'initiative Fair Finance Guide, il apparaît, Michel Gasset, que les 20 plus grandes banques européennes enregistrent un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux.
Soit 25 milliards d'euros en 2015. Oxfam dénonce une utilisation abusive des paradis fiscaux, en particulier au Luxembourg et en Irlande. Mais ce qui interpelle surtout Oxfam, en fait, c'est le contraste entre les bénéfices que ces banques réalisent dans les paradis fiscaux, 26% donc, et le chiffre d'affaires qu'elles y réalisent, 12%. Et elles n'emploient que 7% de leur personnel dans ces paradis fiscaux.
Alors dites-nous, Michel Gasset, est-ce que les banques belges sont concernées par l'étude ?
Pas directement, non, parce que en fait, aucune banque belge ne figure dans le top 20 européen. Mais curieusement, Oxfam classe la Belgique au 3e rang des paradis fiscaux pour les banques européennes, apparemment à cause du mécanisme des intérêts notionnels. Mais à la fin de son rapport, Oxfam précise néanmoins que la plupart des banques européennes étudiées n'utilisent pas la Belgique comme un paradis fiscal.
Les travailleurs de la multinationale Mondelez en grève depuis 6 heures ce matin, une grève de 24 heures. Mondelez, c'est le géant de l'agroalimentaire, soit quelques 100 000 emplois à l'échelle mondiale. En Belgique, le groupe possède 3 sites, Malines, Herenthal, où on fabrique les biscuits Lu et le chocolat Milka, et Rhin, près de Namur, l'ex-usine Kraft, spécialisée en fromage fondu. Tous les sites belges de Mondelez sont à l'arrêt, c'est 1 700 travailleurs. Ils dénoncent la réduction des coûts et la pression qu'ils subissent dans leur travail. Patrick Mertens, de la FGTB Namur-Luxembourg.
Depuis que Mondelez a racheté Kraft, en fait, on se rend compte que la société est à la course aux dividendes, à la productivité. Donc on se retrouve régulièrement soit face à des restructurations, soit à des fermetures d'entreprises carrément, soit à des reventes, comme c'est le cas de Côte d'Or qui vient d'être vendu à Barry Callebaut.
Et vous avez peur pour l'emploi ? En général, vous dites l'emploi est incertain ?
L'emploi est incertain. Les travailleurs nous relayent ça régulièrement. On sent très fort que la direction locale est mise sous pression par la direction centrale qui se trouve à Zurich. Quand on est dans un groupe de cette ampleur, on peut quand même penser que la productivité et la course aux dividendes peut quand même s'accompagner d'un emploi durable.
Le secrétaire régional FGTB Patrick Mertens s'interrogeait par Laurence Laine. Avec le printemps, les centres d'hébergement temporaire du plan hiver vont fermer leurs portes à Bruxelles. Le premier ferme aujourd'hui à 13h, celui de Haren. Les 300 hommes sans abri qui y dormaient seront de retour à la rue. Parmi eux, entre 150 et 200 migrants. Des hommes venus seuls du Soudan, d'Érythrée ou encore de Syrie. Et ils ne veulent pas quitter le centre de Haren. Le témoignage de l'un de ces hommes, il s'appelle Cham.
On n'a pas d'autre solution, alors on dit qu'on ne veut pas sortir. On va rester. Jusqu'à ce qu'ils nous donnent plus de temps. On a besoin de plus de temps, peut-être un mois.
Et avec plus de temps, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
C'est parce qu'on ne veut pas rester en Belgique. On veut traverser vers l'Angleterre. Et donc pour ça, on veut rester ici, au centre, et tenter notre chance. Si on sort du centre, ce sera plus difficile pour nous. C'est pour ça qu'on ne veut pas sortir.
Et donc vous voulez traverser la Manche en bateau ?
Oui, en bateau, dans un camion et puis le bateau.
Une rencontre signée Myriam Ball. Et puis l'affaire du visa demandé par une famille syrienne d'Alep semble tourner en faveur du secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Théo Franken. Le Conseil du contentieux des étrangers, une juridiction indépendante et une instance de recours viennent de rejeter l'appel de la famille syrienne. Théo Franken estime dès lors qu'il est temps d'annuler les astreintes. Astreintes qui pesaient sur son cabinet. La défense de la famille syrienne peut encore se pourvoir en cassation. La circulation des trains a été rétablie entre Huy et Liège, Guillemin. Elle a dû être interrompue ce matin dans les deux sens à cause de l'incendie qui a ravagé le château de Choquet à Flémal. Cela dit, on enregistre encore des retards à cette heure-ci. Deux personnes sont légèrement blessées. Les pompiers et la protection civile sont présents en nombre sur place. L'incendie est à présent maîtrisé, mais le travail des pompiers n'a pas été simple. Le château est difficilement accessible. Il est situé sur un promontoire rocheux. On écoute le capitaine des pompiers pied de Liège, Laurent Charbon.
Ici, on est vraiment au-dessus d'une butte à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la Meuse. Le chemin d'accès est très étroit, il fait moins de 3 mètres de large et est très accidenté. La première bouche d'incendie à proximité est à 250 mètres et ne débite quasi aucune eau. Donc on a dû mettre en place une citerne de la protection civile tout en bas du chemin et tirer des tuyaux jusqu'ici. Ça a pris plusieurs dizaines de minutes pour obtenir de l'eau en conséquence.
Voilà, et l'incendie est à présent maîtrisé. L'interview de Bénédicte Allier, notez que l'on ignore à ce stade les causes de cet incendie. Il est 8h05, les vagues, le bruit du vent, un paysage marin comme si vous y étiez. Vous avez sans doute déjà entendu parler des casques de réalité augmentée, ces casques numériques qui vous immergent dans un environnement virtuel. À l'origine, ils ont été conçus pour le jeu vidéo, mais ils sont aujourd'hui utilisés dans d'autres domaines, la médecine par exemple. Un psychologue belge a développé une application d'hypnose pour des patientes atteintes d'un cancer du sein. L'outil est notamment utilisé aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et dans plusieurs cabinets privés. Le reportage de Barbara Schall.
Bienvenue à Aqua, votre expérience aquatique relaxante. Vous pouvez dès à présent voir comment elle fonctionne en promenant votre regard autour de vous.
Sous le casque, une patiente, Flore, elle l'a enfilé le temps d'une biopsie.
Vous êtes au bord de la mer et on voit un phare, il y a deux mouettes qui se promènent. Et il fait beau, on est au soleil.
D'abord réticente, elle ne croyait pas trop à l'hypnose, Flore a finalement accepté de faire un essai.
Et cet essai était extraordinaire. On est tout à fait détaché de l'acte qui vous arrive en fait. Donc on est un peu dans un état de relaxation totale. Je me rappelle que quand j'ai fait l'examen, Madame Mendez m'a dit à maman, mais vous êtes endormie.
Le docteur Véronica Mendez, c'est le médecin de Flore. Depuis peu, elle propose ce casque de réalité augmentée à ses patientes. Pour elle aussi, le geste devient plus simple.
Quand on a un visage un peu expressif, comme le mien, bah, les patientes suivent la procédure pas à pas en se demandant mais qu'est-ce que vous voyez, mais qu'est-ce que vous avez fait. Et donc on doit faire un effort supplémentaire pour afficher un visage détendu et peu expressif.
Et après quelques essais, ce médecin prédit un bel avenir au casque d'hypnose.
Bah, en fait, moi je pense que c'est dommage qu'on n'y ait pas pensé plus tôt parce que l'apport de l'hypnose virtuelle dans ce type de situation me semble évident. Donc, moi je pense que ça va être un incontournable.
Le logiciel belge est aujourd'hui traduit en 5 langues, prêt à s'exporter dans le monde entier.
La CDU d'Angela Merkel remporte la Sarre. Des élections régionales test y étaient organisées à 6 mois des législatives. Une preuve que rien n'est fait. Les chrétiens démocrates de la CDU obtiennent un peu plus de 40% des voix, soit 10 points de plus que les sociaux-démocrates du SPD. L'effet Martin Schulz n'a pas eu lieu dans cette région d'un peu moins d'un million d'habitants. Berlin, Pascal Thibault.
Super Schulz est à terre, une grosse bosse sur le front, ses lunettes mal en point gisent aussi sur le sol. Le sauveteur des sociodémocrates, le messie du SPD, a été frappé par le projectile de la populaire ministre-présidente de la Sarre, réélue triomphalement d'après plusieurs commentaires hier. Ce premier test électoral pour le nouveau patron du SPD et challenger d'Angela Merkel en septembre n'a pas été un franc succès. Martin Schulz a reconnu la défaite de son parti hier soir, mais ne baisse pas les bras.
Cette soirée ne ressemble pas à ce que nous espérions. Nous voulons un changement politique pour l'Allemagne. C'est une perspective de longue haleine et pas un sprint.
La victoire de la petite Merkel de la Sarre, dixit l'hebdomadaire Der Spiegel, est rassurante pour la chancelière à 6 mois des élections générales. Ce succès épargne à la chef du gouvernement des débats sur sa gestion. Le score modeste des populistes de droite montre qu'on peut aussi réussir sans copier l'extrême droite. Mais l'élection d'hier constitue une victoire d'étape, comme l'écrit le Berliner Morgenpost. La course n'est pas gagnée pour autant. La Schulzmania autour du nouveau patron du SPD à ses limites, mais les commentateurs soulignent également que les 2 élections régionales en mai dans des Länder où cette fois les sortants sont de populaires sociodémocrates, eh bien ces scrutins pourraient se révéler autrement plus dangereux pour les conservateurs allemands.
Des élections aussi en Bulgarie, le parti citoyen pour le développement européen de l'ex-premier ministre Boyko Borisov arrive en tête aux législatives organisées hier. Il obtient un peu plus de 32% des voix devant les socialistes pro-russes qui peuvent compter eux sur quelques 28%. S'il parvient à former une coalition, Borisov sera un cas unique dans l'histoire de la Bulgarie post-communiste, puisqu'il sera le seul chef de gouvernement à avoir conquis 3 mandats. En Russie, Alexei Navalny sera présenté à un juge ce matin. Il va comparaître pour appel au rassemblement donnant lieu à des troubles à l'ordre public. L'opposant russe et des centaines de partisans ont été interpellés dans toute la Russie alors qu'ils manifestaient pour dénoncer la corruption. L'une des plus fortes mobilisations depuis que Vladimir Poutine est revenu au Kremlin il y a 5 ans. Alexei Navalny qui compte défier Vladimir Poutine à l'élection présidentielle prévue début 2018. Est-ce une bavure de la coalition internationale ou pas? Il y a tout juste 10 jours, des maisons ont été détruites dans la partie ouest de Mossoul en Irak. Il y a des dizaines, voire peut-être des centaines de victimes civiles. Alors les circonstances sont floues. La coalition internationale et l'Irak commencent à enquêter à Aline Wavreille.
Les combats ont ralenti l'arrivée des secours. Alors hier encore, des membres de la défense civile retiraient les corps des gravats de ce quartier tenu par le groupe État islamique. Combien de victimes ? Impossible de le dire, au moins des dizaines selon des responsables locaux. Qui est responsable ? C'est la question qui se pose. La coalition internationale à laquelle contribue la Belgique a reconnu avoir procédé à des frappes dans ce secteur de Mossoul le 17 mars dernier. Elle appuie les troupes au sol chargées de chasser les djihadistes de la partie ouest de la ville. La coalition n'endosse pour le moment aucune responsabilité. Il faut d'abord enquêter. L'armée irakienne considère elle qu'au moins un de ses immeubles a été piégé par les djihadistes. L'offensive sur l'ouest de la ville est très compliquée. Cette partie est densément peuplée, il resterait près de 400 000 civils dans cette zone. Le groupe État islamique est accusé de les utiliser comme boucliers. Il rassemble des familles au rez-de-chaussée des maisons et se place sur les toits pour tirer. L'ONU appelle les forces impliquées à Mossoul à tout faire pour protéger les civils.
L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, bientôt arrêtée. C'est ce que réclament en tout cas les enquêteurs qui travaillent sur le retentissant scandale de corruption qui a entraîné sa destitution, moins d'une semaine après sa longue audition. Avant sa destitution, Madame Park, 65 ans, a échappé pendant des mois aux poursuites, et cela grâce à son immunité présidentielle. Football, trois nouveaux forfaits ont été annoncés chez les Diables Rouges qui doivent rencontrer la Russie demain soir à Sotchi en match amical. Thibaut Courtois, Marwan Fellaini et Laurent Simon, légèrement blessés, ne seront pas du voyage. Des forfaits qui s'ajoutent à ceux d'Eden Hazard, de Kevin De Bruyne et de Thomas Meunier qui n'étaient déjà pas là samedi contre la Grèce. Les Diables Rouges avaient partagé, je vous le rappelle, l'enjeu, un but partout. En cyclisme, Greg Van Avermaet est en forme olympique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a encore gagné. Il s'est imposé hier dans le Gant Wevelgem et il sera le grand favori du Tour des Flandres. C'est dimanche prochain. Un statut lourd à porter, mais qu'il sera parfaitement géré selon notre consultant cyclisme Jean-Luc Vandenbroek.
Maintenant, il a l'expérience, hein, et surtout avec ce titre olympique qui donne une assurance sur les courses à venir. Il est flamand, il va passer chez lui, je pense. Donc vraiment, ça sera le favori numéro un.
Il a changé quand même, Van Avermaet. Sans doute, ce titre olympique l'a changé. Il est vraiment plus sûr de lui, et il le dit maintenant. On oublie la timidité maintenant. Voilà, je suis favori, j'assume.
Il prend le départ, il assume son titre favori. Il fait la course, il profite de personne. C'est à la pédale. On a vécu des finales extraordinaires, homme contre homme. Il est en pleine sérénité, en pleine possession de ses moyens. C'est un coureur sûr de lui et c'est le favori, le grand favori du Tour des Flandres.
Greg Van Avermaet, sûr de lui, on verra ça dimanche prochain donc pour le Tour des Flandres.
C'était votre journal avec Africa Gordio sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Alexander De Croo répond dans un instant à Benoît Lutgen. A tout de suite.
La première.
Mais avant cela, la météo, une météo très printanière de Nicolas.
Oui, en effet, on a quand même un ciel déjà bien dégagé. Il a fait un petit peu frais ce matin, mais c'est aussi bon signe car au fil des heures, les températures vont remonter. On attend 14 à 18, voire 19 degrés pour aujourd'hui. Et ce qui va changer surtout avec le week-end, c'est qu'il y a moins de vent, donc ce sera nettement plus agréable. Première belle journée aujourd'hui. Demain matin, le soleil revient et demain après-midi, on aura des nuages bourgeonnants qui pourraient laisser éclater une petite averse sur la moitié nord du pays. Côté température, 15 à 18 degrés. 10 à 15, un petit peu plus frais mercredi avec un petit peu plus de nuages, mais le temps reste sec. Et jeudi, on sera gratifié d'une journée digne du mois de mai avec des températures de 16 à 17 sur les hauteurs, 20 à 21 dans le centre du pays. Il faut en profiter car vendredi, ça va se gâter un peu avec le retour des quelques averses.
Bon courage à vous, hein. Si vous êtes sur la route, c'est très très difficile sur la E40, Caroline Gillet.
Et oui, Mehdi, dans le sens Bruxelles-Liège, puisque vous avez un accident à hauteur d'Anu, la voie de gauche est partiellement entravée, c'est en direction de Liège, vers Bruxelles, toujours sur cette E40. Vous perdez un peu moins d'une heure à présent en direction de la capitale, avec des files depuis Asrode. En cause, un camion en panne dans l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, mais la voie est dégagée, donc les files devraient diminuer doucement. En revanche, on a un accident dans l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, mais dans l'autre sens. La voie de gauche est neutralisée dans la bretelle qui relie le ring de Bruxelles venant de Grand Bigard à l'E40 en direction de Liège. Sur les différents grands axes qui mènent à Bruxelles, vous perdez en moyenne une trentaine de minutes, c'est assez chargé. Sur le ring de Bruxelles, un tronçon est particulièrement ralenti, c'est en intérieur, Grand Bigard, Zaventem, vous perdez une demi-heure. En revanche, dans le centre de Bruxelles, c'est assez calme ce matin, vous ralentissez entre les tunnels Léopold II et Arloise seulement vers le midi.
Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400.
Il est 8h14. Faut-il continuer à vendre des armes à des pays et à des régimes répressifs? Des pays qui font la guerre avec pour conséquence de nombreuses souffrances chez les civils. Question éthique, mais aussi question économique, puisque ces armes fournissent pas mal d'emplois chez nous. Avec nous, Alexander De Croo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre fédéral Open VLD à la coopération au développement. Vous souhaitez que l'on arrête de livrer des armes fabriquées en Belgique à l'Arabie Saoudite. Pourquoi annoncer cela? Pourquoi dire ça aujourd'hui, maintenant?
Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a la plus grande catastrophe humanitaire qui est en train de prendre place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 20 millions de gens qui sont en train de mourir, 1,5 million d'enfants. Et c'est souvent à cause de conflits qui sont nourris par des armes fabriquées en Europe et des armes fabriquées en Belgique. Alors, c'est les régions qui ont la possibilité de donner des licences d'exportation. Ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons purement humanitaires, qu'au moins on arrête, par exemple, de vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui mène une guerre tout à fait cruelle au Yémen aujourd'hui.
Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, Benoît Lujan était l'invité de Bertrand. Il vous demande de joindre le geste à la parole et de déposer un dossier à l'Europe pour interdire toute forme d'importation et d'exportation à l'Arabie Saoudite. Que répondez-vous?
Oui, mais c'est vraiment pousser la patate chaude vers l'Europe. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de décision et comme ça, on peut continuer à vendre des armes. Alors, ce que Paul Magnette et Benoît Lujan dit, c'est qu'en fait, ils préfèrent que les enfants au Yémen soient massacrés avec des armes belges plutôt qu'avec des armes françaises ou allemandes. C'est ça la position du PS et des CDH aujourd'hui. Je pense que c'est quand même une position assez cruelle.
Vous trouvez que c'est une position pas pragmatique du tout?
Ça n'a rien à voir avec pragmatisme. À un moment comme aujourd'hui, quand il y a des millions de gens qui sont en train de mourir, je pense que, honnêtement, les principes passent d'abord au-delà des intérêts économiques à un moment comme aujourd'hui.
Sur ce dossier des ventes d'armes, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, trop loin dans la régionalisation? Est-ce que les licences d'armes régionalisées, c'est une bonne idée? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une compétence fédérale?
Je pense que c'est un débat à avoir peut-être à un moment donné. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce que je demande, c'est juste un cri de cœur humanitaire. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en train de mourir dans le monde, ils se soucient pas de qui est compétent. Est-ce que c'est les régions? Est-ce que c'est la Belgique? Est-ce que c'est l'Europe qui est compétent? Ce que je demande aujourd'hui, c'est que la Belgique donne le bon exemple et ne pousse pas la patate chaude vers l'autre côté.
Même si ça nous coûte en termes d'emploi en Wallonie?
Mais je pense que, à un moment comme aujourd'hui, aller utiliser des argumentations purement économiques, quand on voit qu'il y a des millions de gens qui sont en train de mourir, honnêtement, je pense que ce n'est pas la bonne discussion. La bonne discussion, c'est de donner un signal aujourd'hui. Et nous sommes tout à fait capables de donner ce signal. D'ailleurs, aller dire que l'Europe doit décider et que les régions ne peuvent pas s'exprimer au niveau de l'Europe, Paul Magnette, quand il a essayé de bloquer CETA, il n'y avait pas de problème de le faire directement et de dire c'est le fédéral qui doit le faire. Il y a là quand même un peu une sorte de géométrie variable, si on pourrait le dire comme ça.
Donc pour vous, vous relancez et vous redemandez à la région wallonne de prendre ses responsabilités.
Mais c'est de la responsabilité des régions de le faire. Je peux uniquement, d'un point de vue humanitaire, dire d'un côté, nous sommes en train d'essayer de faire tout pour sauver des vies. Nous investissons des millions d'euros pour nourrir des enfants qui sont en train de mourir. D'un autre côté, on continuerait à vendre des armes qui alimentent ce conflit. Ça, c'est vraiment mettre un plâtre sur une jambe de bois.
Alors concrètement, que fait la Belgique aujourd'hui pour venir en aide aux Yéménites qui sont bombardés tous les jours par les Saoudiens?
Alors, au niveau total, nous faisons un investissement de 60 millions d'aide humanitaire. Nous le faisons déjà, on va l'augmenter. À côté de cela, il y a une action qui s'appelle 12-12 avec des NGO, qui essayent de trouver des fonds. Ce qu'on a dit au niveau fédéral, c'est que quand les Belges sont solidaires et veulent donner quelque chose pour aider les gens qui sont dans un besoin énorme, nous sommes tout à fait prêts, nous allons doubler ce montant. Donc quand vous allez chercher sur 1212.be, quand vous montrez solidaire, vous donnez 1 euro, finalement vous allez donner 2 euros parce qu'on a décidé de doubler ce montant-là.
Merci beaucoup Alexandre Decroix d'être venu ce matin pour évoquer cette question importante de l'Arabie Saoudite qui attaque depuis de nombreux mois maintenant le Yémen. Vous restez avec nous dans un petit instant, vous allez retrouver votre revue de presse.
Matin première.
En télé sur la Une.
Second direct pour les talents, à l'issue duquel il n'en restera que 16.
The Voice, ça va être chaud.
The Voice Belgique, le second live, exceptionnellement ce lundi soir sur la Une.
Écoutez la première partout, tout le temps, sur rtbf.be/ovio.
Cuisine Xina.
Profitez vite de nos meilleures conditions, Batibo. Ce sont les derniers jours. Conditions sur
Xina.be,
c'est bien pensé.
À l'heure où certains ne pensent qu'à ériger des murs ou à fermer leurs portes, eh bien vous avez décidé de faire exactement le contraire. Parce que chez vous, tout le monde est le bienvenu. La preuve, actuellement, en vous abonnant à un trio, fini les frais d'entrée, dont 110 euros d'économie. Mais on ne s'arrête pas là. Au lieu de 54,95 euros par mois, vous ne paierez que 44,95 euros pendant 3 mois. Et ça, c'est vraiment démocratique. Alors, rendez-vous vite sur vous.be. Offre soumise à condition.
Voilà, je vais prendre ces chaussures-ci.
Très bon choix. C'est 120 euros plus 6 euros de transaction.
Ah, alors je les laisse.
Je peux les reprendre, mais ça fera de nouveau 6 euros de transaction. Donc 12 euros au total, s'il vous plaît.
Pardon ? Dans la vie, mieux vaut un partenaire qui ne se serve pas au passage. Pour vos transactions boursières, c'est pareil. Chez Deutsche Bank, c'est 0 euros de frais à l'achat et à la vente de vos actions en ligne sur Euronext. 0 euros. Offre temporaire, infos et conditions sur deutschebank.be. Deutsche Bank, investissez dans votre vie.
Salut, je m'appelle Max et depuis hier, je suis étudiant intérimaire chez Daoust, comme mon père au début de sa carrière. Merci pour le conseil, Pa. Et merci Daoust.
Élu entreprise de l'année, Daoust cultive un vrai esprit de famille. Rejoignez la grande famille Daoust sur daoust.be.
6h-9h sur la première.
Medical Fat.
Bienvenue si vous nous rejoignez en ce lundi matin, il est 8h21, voici votre revue de presse avec Simon Bourgeois et les éditos sont durs ce matin avec les dirigeants au pouvoir.
Aux États-Unis d'abord, ça fait 2 bons mois que Donald Trump est président et il réalise déjà que c'est plus facile de brailler que de gouverner, c'est la libre qu'il écrit. Bah oui, plus facile de détruire que de bâtir, oui mais même détruire il n'y arrive pas. Il n'a pas réussi à faire abroger la réforme des soins de santé de son prédécesseur, le fameux Obamacare, belle démonstration de son incompétence. Pourtant, c'était son cheval de bataille pendant la campagne, rappelle Le Monde. Le candidat Trump disait à ce moment-là, à qui voulait l'entendre, « Je suis le seul à pouvoir faire avancer la politique de ce pays complètement paralysé par les divisions ». Oui, sauf qu'en fait, il n'y arrive pas. Ces deux premiers projets emblématiques, le décret anti-immigration et la suppression de l'Obamacare, tous les deux recalés. Oui, il y a comme un air de paralysie en ce début de mandat de Donald Trump. Mais franchement, demande la Libre, est-ce qu'il croyait vraiment que ça passerait, que les démocrates le soutiendraient au Congrès ? Si oui, au minimum, ça manque de bon sens, ou plus vraisemblablement ça démontre une incompréhension totale du fonctionnement des institutions. Conclusion, un homme d'affaires ne fait pas forcément un bon président, et un pays ne se gère pas comme une entreprise.
Et chez nous non plus, il ne fait pas bon être au pouvoir. Le dernier baromètre RTBF, la Libre, est mauvais pour les partis traditionnels.
Et d'ailleurs, s'il fallait voter aujourd'hui, le gouvernement fédéral n'aurait même plus la majorité. Non, la suédoise ne serait plus possible, c'est la manchette de la Libre. Pour la DH, c'est clair, la rengaine du tous pourri frappe de plein fouet l'ensemble de la classe politique et pour longtemps. Tiens, d'ailleurs, à propos, la une du soir, Nétis a influencé le gouvernement wallon. En 2014, les ministres, PS, CDH et Écolo à l'époque, auraient modifié des décrets pour permettre à Publifine de se réorganiser, faire passer des activités publiques vers le privé et donc échapper au contrôle politique de la tutelle. Ah, mais attendez, on nous dit depuis des semaines que tout le monde savait pour Publifine, mais seulement à Liège. Oui, mais si le gouvernement wallon a encouragé cette fuite vers la sphère privée, alors c'est bien au-delà de Liège. À la région aussi, on savait, non ? Donc résumons-nous, Nétis a toujours tout fait pour échapper au contrôle du gouvernement, et le gouvernement lui-même a signé des décrets pour rendre ça possible. Alors soit les ministres wallons étaient aveugles et naïfs, ou alors, propose Le Soir, ils étaient complices. Aïe, mais si la tutelle ne contrôle plus, qui contrôle les intercommunales ? Qui est encore garant de l'intérêt public dans ce pays ? Il est grand temps de remettre de l'ordre là-dedans et les présidents de parti feraient bien de demander à leurs troupes de reprendre, de recadrer les entités publiques qui font tout pour passer sous les radars.
Le débat entre les pros et les anti-avortements relancé dans la presse après la polémique à l'UCL et la marche pour la vie hier à Bruxelles.
Avec des nuances dans ce débat et qui ne viennent pas forcément d'où on les attend. Réaction du porte-parole des évêques belges dans Le Soir. Il condamne les propos du chargé de cour de l'UCL. L'avortement n'est pas un meurtre. Le mot est bien trop fort. Le meurtre suppose de la violence, un acte avec une intention. Alors franchement, pour ce porte-parole, des propos comme ça, ça n'aide pas l'Église. Et d'ailleurs, il se distancie et il rappelle cette marche hier à Bruxelles. C'était une initiative privée de catholiques, certes, mais privée, pas du tout un événement officiel de l'Église. Oui, le débat est bel et bien relancé.
C'était Simon Bourgeois. Il est 8h25. Voici la semaine d'Hamid Faljaoui. Ce qui vous a marqué cette semaine, c'est ce sondage, hein, RTBF La Libre, qui met le PTB en deuxième parti politique en Wallonie. Alors pourquoi ce choix de votre part? Quel est l'impact économique de ces intentions de vote?
Mais effectivement, c'est une bonne question. En fait, je me suis d'abord posé la question pourquoi, je dirais, le PTB caracole, en tout cas certainement dans le sud du pays. D'abord, il y a un étonnement. Le premier, c'est que c'est un parti qui s'affiche clairement marxiste, communiste. Quand on connaît le track record, y compris sur le plan économique des partis communistes de par le monde, c'est pas franchement terrible. En plus, c'est un parti qui dit clairement qu'il veut pas gouverner, ou alors il met tellement de conditions que dans les faits, il peut pas gouverner. Donc clairement, ils veulent un Marocain, un portefeuille, et c'est le portefeuille, ou plutôt le ministère de la parole. C'est assez irritant un petit peu, c'est un petit peu comme, vous savez, ces passagers arrière dans les voitures que les anglo-saxons appellent les backseat drivers, qui vous disent comment il faut tout au long du trajet, ce qu'il faut faire, pas faire, etc., mais que lorsque vous leur proposez de conduire la voiture, ne veulent pas, parce que tout simplement pour telle ou telle raison. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès. Eh bien je crois sans doute c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a un parti qui ne dit pas son nom, qui est le parti des prafs, le parti des rien à faire si on est poli, ou des rien à foutre si on n'est pas poli, et qui est ainsi, que j'ai pas du tout inventé, mais qui est celui inventé par Brice Tinturic, qui est un spécialiste des sondages en France, et qui dit que c'est finalement c'est un parti qui regroupe qui, bah, des gens qui sont dégoûtés de la politique, des gens qui sont en colère contre la politique, ou des gens qui ont peur tout simplement du changement, notamment par rapport au numérique. On sait que le changement va très très vite et qu'ils ont ce sentiment peut-être d'être déclassés. Et donc le PTB a compris que la clé du succès en politique, c'est l'empathie. Mmh. Alors pour bien comprendre ça, moi ce qui m'a frappé, c'est une interview que j'ai lue il y a pas tellement longtemps d'ailleurs chez nos confrères du journal L'Écho, une interview de l'ancien ministre des finances hollandais, Waterboos, qui disait, bah, c'était en 2002 à l'époque, il se promenait dans les quartiers, je dirais, entre guillemets, pauvres de Rotterdam, et il posait la question à l'un ou l'autre de ses concitoyens, en disant pour qui ils allaient voter. Et la plupart d'entre eux lui disaient, bah, on va voter pour Pim Fortuyn. Et il les a regardés, et vous ne pensez même pas que ce brave Pim va régler vos problèmes. Et la plupart des gens lui ont dit, non, il ne va pas régler nos problèmes, mais au moins lui, il nous comprend. Et donc là, il s'est dit que ce jour-là, il avait compris beaucoup de choses à la politique. La même chose, il regardait récemment, je dirais, un documentaire aux Pays-Bas, et on voyait très clairement que les gens qui votaient pour le PVV n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient racistes ou anti-syriens ou anti-immigrés ou anti-réfugiés, mais ce sont des gens qui se sont sentis, comment dirais-je, floués de la manière dont on a accueilli ces réfugiés, parce que quand ils regardent la télé, ils ont l'impression que ces réfugiés ont trouvé un logement, ont trouvé un job très rapidement, alors que sont surendettés et ont les pires difficultés pour nouer les fins de mois. Et donc, ils se sentent donc injustement incompris, et donc la raison pour laquelle ils votent pour un certain nombre de partis, et ici par exemple c'est pour le PTB.
Alors ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le PTB se nourrit de la peur, et notamment de la peur du déclassement économique et social.
Oui, parce que ce sont des communicateurs nés. Je crois que la première qualité des gens du PTB, ce sont des véritables sociologues. Ils sentent l'air du temps. Ils ont compris, mais ils ne sont pas les seuls à avoir dit. Alain Duhamel l'a dit aussi dans un de ses derniers bouquins, qu'on est tous des fils et des filles de Gaulois. Donc on s'attend toujours à ce que le ciel nous tombe toujours sur la tête. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de gens. Aussi la vitesse qui va très très vite. On voit qu'avec le numérique, les choses changent en 5-7 ans. Or, l'être humain change peut-être après 10 ou 15 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Et puis il y a aussi la vision, je dirais, de la croissance. Les gens voient la croissance comme une sorte de gâteau qui est fini et que donc il ne peut pas croître. Et donc quand on accueille des immigrés, je dirais, ou qu'on voit que des riches sont de plus en plus riches, on a l'impression que ça se fait au détriment de ma propre part. Mmh. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est la croissance plutôt comme un gâteau qu'on peut faire croître, de sorte que l'on puisse, je dirais, répartir mieux les parts du gâteau ou accueillir d'autres convives. Et finalement, ce à quoi on assiste, c'est de voir que la gauche se dit, bah, finalement, la croissance, on va plus jamais la retrouver. Et donc, ce qu'on va faire, c'est couper ce gâteau plutôt en plus petite part, hein, d'où le revenu universel. Et puis la droite qui dit, bah finalement, j'ai le même constat, le gâteau ne va pas croître. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais limiter le nombre de convives autour du gâteau, que ce soit les immigrés ou repousser les jeunes dans leur entrée dans le marché du travail.
C'était la semaine d'Hamid Faljaoui qui analysait de son point de vue la percée du PTB en Wallonie. Vous restez avec nous à suivre le journal du web et évidemment l'essentiel de l'actualité.
La matinale de la première,
6h-9h,
Medical Facts.
Groupe et secrétariat social. Vincent, bonjour.
Oui, c'est encore Sophie, la secrétaire de Monsieur Le Max.
Ah, Sophie, comment va Monsieur Le Max?
On a des problèmes avec le personnel maintenant.
Mais enfin, Groupe S s'occupe aussi des négociations avec le personnel.
Sophie, à l'aide!
Ah bon? Ah, et vous gérez aussi les préavis?
Bien sûr, et même toute la procédure. Pourquoi?
Parce que je sens que Monsieur Le Max pourrait peut-être en avoir besoin.
Groupe S, le secrétariat social qui vous écoute, vous conseille et vous propose des solutions RH pour votre statut d'indépendant et votre entreprise. Groupe S, vous pouvez compter sur nous.
Move on de Touring, enfin une assistance tout en un pour vous et votre famille qui vous couvre quel que soit le véhicule.
Donc c'est aussi pour les mamans qui comme moi roulent à Knock en voiture de golf.
Oui.
Et pour ma fille qui va chercher son nouveau petit copain avec ma voiture.
Oui.
Et pour les hommes qui préfèrent passer plus de temps avec leur vélo qu'avec leur femme, ça marche.
Même pour lui, oui. Avec Move on de Touring, vous avez enfin une assistance tout en un pour vous et votre famille.